Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on se met sur la paille dans les grandes largeurs. Yvan Saint-Jour, on termine cette série sur les matériaux avec celui qui est le plus incongru, en tout cas en France, le plus inattendu. Il n'est pas du tout passé dans les mœurs. Et hormis les maisons des petits cochons, il n'est pas très connu. C'est la paille. Alors, il se trouve que vous sortez votre nouvelle série de fiches hippie-pip. Et il y en aura une sur la maison de paille. Et la maison de paille, c'est quelque chose que vous connaissez très bien aussi, pour en avoir beaucoup visité lorsque vous vous occupiez de la maison écologique, la revue.
Et oui, tout à fait, la paille, c'est un matériau totalement incongru, mais je me permettrai de vous reprendre, parce qu'en fait, je pense que ça commence à passer dans les mœurs. Il y a eu tellement de reportages, tellement d'articles, etc., que quand on dit, ben voilà, tiens, ben ça, c'est une maison en paille, les gens ne tombent plus des nues comme il y a 10 ans, ou alors ils ne lèvent plus les yeux au ciel comme il y a 20 ans. Mais là, ils disent, ah d'accord, puis voilà, ben, c'est une maison en paille, ok. Ils en ont entendu parler maintenant.
Mais est-ce que ce n'est pas quand même réservé à des petites constructions Est-ce qu'on ne l'imagine pas plutôt dans quelque chose d'appoint, ou alors une sorte de cabane à la campagne ou...
Oh, alors, peut-être pas cabane, mais effectivement, peut-être petite maison individuelle, et puis on le cantonne à ça, voilà, ben, tiens, ben, eux, là-bas, c'est les écolos, ils ont une maison en paille et des toilettes sèches, voilà. On va dire, oui, ça pourrait se résumer comme ça, ce qui n'est pas du tout la réalité, bien sûr, puisque maintenant, il y a beaucoup d'établissements recevant du public qui ont goûté à la paille, écoles, bâtiments HLM, etc., donc on a vraiment des constructions incroyables. Quand on repart, juste il y a quelques années en arrière, donc effectivement au début de la paille. J'habitais, moi, donc sur le plateau du Larzac, en Aveyron, dans un endroit assez particulier et connu pour ça, parce qu'il y avait eu la première construction en botte de paille du revival. C'est-à-dire qu'il y a eu les constructions à la fin, vers 1870-1880, au Nebraska, aux États-Unis. Avec l'arrivée des presses et des moissonneuses batteuses, paf, on a des espèces de briques en paille et on va commencer à construire une grange, un abri pour le fermier en plein milieu de nulle part dans ces grandes étendues de l'Ouest là. Et puis bah, ça devient un matériau, on construit même une église, des vraies maisons d'habitation, etc. Les plus vieilles datent de cette époque-là, hein, aux États-Unis. Et après, ben, ça tombe dans l'oubli, parce que la paille, c'est quasiment gratuit. Et donc, ça ne fait pas marcher le commerce. Donc, ça tombe dans l'oubli. Et pourtant, en 1921, à Montargis, donc à côté d'Orléans, il y a la fameuse construction en paille de l'ingénieur Feuillette, qui était l'inventeur de la balle à blanc, entre autres, et qui s'était dit, au sortir de la Première Guerre mondiale, tiens, ben, est-ce qu'on pourrait pas construire une maison super rapide, efficace thermiquement, avec un matériau local, pas trop cher? Il avait fait une structure bois un peu forte, on va dire, par rapport à ce que nécessite la paille en réalité, mais il a eu le mérite de construire la première maison de paille référencée comme ça en France et même en Europe. Hein. Donc c'était en 1921. Et puis après, ben, plus rien, parce que ben, voilà, c'est un matériau qui coûte pas cher, et donc ça ne l'aide pas à son développement. Et donc en 1974-1975, sur le plateau du Larzac, a été construite une petite maison en botte de paille. En 3 jours, ils ont posé l'essentiel de la structure, le toit. Il fallait qu'ils fassent très très vite, et quand les gendarmes sont passés, ils ont dit qu'ils construisaient un poulailler. Et hop, une fois qu'ils étaient dedans, c'était l'hiver et ils ne pouvaient plus être mis dehors. Donc ça a été la première maison en botte de paille en France. Et de là, il y a eu plusieurs constructions, quelques-unes dans les Vosges, et puis un peu partout. Et aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, la maison en botte de paille, c'est vraiment la maison confortable, avec un matériau peu coûteux. On peut avoir de la paille bio, donc c'est vraiment super chouette. Voilà, donc c'est devenu un matériau pas courant encore, mais en tout cas, un matériau qu'on commence à reconnaître.
Si vous deviez chanter les louanges de la paille comme vous nous avez chanté celle de la terre la semaine dernière, c'est le coût surtout qui est intéressant dans la paille ?
Alors, c'est le coût. Oui, c'est la mise en œuvre aussi qui est intéressante, parce qu'on bouge des briques de paille qui sont quand même assez énormes, donc on voit vite quand même l'avancement des travaux, même si après il faut recouvrir d'un enduit terre ou chaux, et donc ça prend du temps pour la finaliser. Alors certains, bien sûr, construisent maintenant en bottes de paille et puis ferment des caissons en bois, Et du coup, voilà, c'est encore plus rapide. Mais voilà, donc c'est effectivement le côté, on le trouve partout. C'est vraiment un matériau qu'on trouve quasiment partout en France, qui est très peu coûteux, très facile à manipuler, qui gratte pas. Enfin, ou alors si ça gratte, c'est juste le temps de la mise en œuvre et puis après c'est fini. Et puis, on peut avoir de la construction en paille très populaire, vraiment pour tous, facile à réaliser. Et là, ça a un côté qui est quand même assez réjouissant d'imaginer de pouvoir construire peu cher, rapidement, avec un matériau local.
Démonstration avec Vincent Pierret à Saint-Dié-des-Vosges.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Vincent Pierret, vous êtes un drôle de phénomène. Vous êtes ingénieur, vous vous passionnez pour des choses qui ont l'air extraordinairement techniques et en même temps vous construisez en paille. Vous avez l'air de préférer presque la rénovation à la construction. Ah, je peux même enlever le presque apparemment. Et puis vous travaillez énormément pour le secteur social, les logements sociaux, alors qu'on pourrait avoir le sentiment comme ça en... si on ne s'approche pas vraiment, que c'est justement un secteur où il ne se passe pas grand-chose, où ça ronronne, où on est plutôt dans les vieilles manières de faire, les vieilles méthodes, quelque chose d'un peu poussiéreux.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont vraies. Il y a effectivement, je trouve beaucoup plus intéressant la rénovation que le neuf, tout simplement parce qu'on a encore plus de contraintes, donc on est amené à encore mieux concevoir. Et c'est vraiment aussi un sujet d'actualité. On a beaucoup construit au XXe siècle, on a encore pas mal construit au début du XXIe siècle, et maintenant il faut juste rénover tout le parc existant. Donc il y a 85% de ce qui existe, voire 90%, pour pas dire 100%, qui devrait être rénové énergétiquement d'ici à 2050, si on veut rentrer dans les objectifs, par exemple, du scénario Négawatt, qui seront un peu de choses près ce qu'il faudrait faire au niveau mondial par rapport au changement climatique.
Vous dites qu'il devra, mais il y a des obstacles à ça. D'abord, le fait qu'on dit toujours qu'une rénovation et une restauration, c'est jamais aussi efficace qu'une construction basse consommation, voire énergie positive. Et puis, il y a aussi le geste de l'architecte, le plaisir qu'ont les constructeurs, les bâtisseurs à laisser leur marque, leur empreinte.
Déjà, c'est juste complètement faux. On s'est rénové, surtout dès que les bâtiments sont un tant soit peu importants en taille, on s'est rénové aussi efficacement du bâtiment existant que du bâtiment à un niveau de performance équivalent à un bâtiment neuf. On va dire par exemple des bâtiments passifs, qui est finalement le seul concept de bâtiment performant. Les bâtiments positifs n'étant pas un concept en soi, hein, le bâtiment positif, c'est un bâtiment, on ne sait pas comment, sur lequel on a mis de la production d'énergie. Si on met de la production d'énergie sur un bâtiment passif, c'est quelque chose d'intéressant. Si on met de la production d'énergie, beaucoup de production d'énergie avec des matériaux qui coûtent cher et qui ont demandé eux-mêmes beaucoup d'énergie pour les produire, sur un bâtiment qui est très énergivore, bon, je trouve ça relativement absurde. Donc, moi, je parlerai jamais vraiment de bâtiment positif, je parlerai de bâtiments passifs qui produisent de l'énergie, c'est intéressant. Maintenant, vaut mieux rénover que construire, sachant qu'aujourd'hui, on a une population qui augmente peu et on a un parc bâti qui est absolument colossal. Donc l'enjeu est au niveau de la rénovation. Aujourd'hui, les niveaux même de la réglementation thermique, hein, RT 2012 sur le bâtiment neuf.
RT 2012, c'est la réglementation thermique qui est passée en 2012, qui est donc la plus récente, oui, qui est appelée à être améliorée régulièrement.
Voilà, c'est celle qui est actuellement en vigueur, qui finalement, par rapport à ce qu'on construisait il y a encore une dizaine d'années, a été une petite révolution qui fait que sur le bâtiment neuf, on va dire, on peut toujours faire mieux, nous on fait nettement mieux, enfin on fait des bâtiments passifs. Le bâtiment passif, finalement, n'étant pas un bâtiment juste mieux, c'est un bâtiment conçu totalement différemment. C'est une autre manière de concevoir.
Alors, attendez, vous allez trop vite là. Parce que vous étiez en train de me dire on peut parfaitement rénover... On peut le faire aussi bien que dans le neuf, mais là, vous me dites, non, c'est une autre conception.
Oui, mais même la rénovation passive est une autre conception que l'approche classique. L'approche classique, on va dire, à l'origine, on mettait du chauffage pour pouvoir avoir 20 degrés, on va dire, toute l'année dans le bâtiment. Et comme on ne payait pas l'énergie, on mettait une très grosse chaudière et on faisait un gros plein de fuel et c'était parti. On s'est rendu compte que ça posait des problèmes. et on a commencé à isoler. Sauf qu'on a, en fait, on a, sur des bâtiments relativement mal conçus, on a commencé à rajouter un petit peu d'isolant pour minimiser la consommation énergétique. La logique du bâtiment basse consommation, assez souvent, malheureusement, a été de surisoler une mauvaise conception. Alors que l'approche du bâtiment passif, avec un de ses mantras qui est que le chauffage est une adaptation constante aux erreurs de conception, et d'aller supprimer les erreurs de conception pour supprimer le chauffage. Et on peut le réaliser à peu près sous tout type de climat. Et les climats continentaux, comme dans lesquels on travaille, sont vraiment les climats dans lesquels le passif se justifie le plus.
Et sur tout type de bâtiment, même ceux qui ont été mal conçus au départ, et on sait que c'est quand même l'écrasante majorité du parc immobilier.
Alors, dans une certaine limite, je dirais les bâtiments qui ont une certaine rationalité de construction, une certaine simplicité, une certaine compacité, une certaine bonne orientation, vont être des bâtiments faciles à rénover, passifs. Typiquement, les constructions et logements collectifs des années 60-70, ils répondent à ces critères-là. Ça peut paraître iconoclaste, mais c'est plutôt des bâtiments assez bien conçus, assez rationnels, faciles à rénover, pas si coûteux que ça à rénover. Je suis beaucoup plus inquiet pour ce qui a été construit dans les années 80-90, où là, il y a des complexités, des formes très peu simples, beaucoup de points singuliers, beaucoup de matériaux différents en façade, des choses qui n'ont pas très bien vieilli et qui sont très 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 difficiles à rénover.
C'est vrai que c'est curieux de vous entendre dire ça, Vincent Pierret, parce que les images qu'on a des grands ensembles des années 60-70, c'est vraiment pas exactement l'image du bonheur.
Non, mais le cas n'est pas désespéré, dans le sens où on avait développé le concept avec des amis architectes de dire que les années 60-70 nous avaient livré du gros œuf prêt à finir, c'est-à-dire des bâtiments bruts de décoffrage, c'est tout à fait le cas, c'est du béton brut, et ils avaient juste oublié de les isoler, et comme l'isolation se passe par l'extérieur, c'est une opportunité de reconcevoir les bâtiments, de leur donner un aspect totalement différent, de leur donner des fonctionnalités en leur mettant des grands balcons, chose qu'il y a très rarement, en utilisant des matériaux biosourcés en façade, en mettant des
matériaux biosourcés.
Oui, alors ça, c'est le mot pour dire du bois, pour dire de la paille, de la cellulose, du chanvre, des fibres végétales, voilà. Donc en fait, des vrais matériaux, plutôt que les matériaux issus de la pétrochimie ou les laines minérales.
Donc là, on est dans le décor, la décoration.
Non, on recrée une peau extérieure qui est complètement fonctionnelle. C'est-à-dire c'est une peau qui va isoler le bâtiment, qui va juste diviser par 10 ses consommations énergétiques. Donc on n'est pas vraiment dans la décoration. Mais en même temps, on peut faire une belle peau. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remettre le même aspect qu'à l'origine. Et là, ça ouvre tous les possibles. Et c'est là où le travail architectural, le travail de conception, va permettre de faire des choses qui sont où le bâtiment est méconnaissable par rapport au bâtiment d'origine et est reparti pour 40 ans.
Vous dites énormément de choses, donc on va essayer de revenir, puisque je vous ai remarqué, Vincent Pierret, que on a coutume d'imaginer que le logement social, c'est justement le parent pauvre de tout ça. Alors, vous n'avez pas encore vraiment précisé la donne budgétaire de cette rénovation, dont vous dites qu'aujourd'hui, elle est au moins aussi efficace que la construction. Est-ce que ça ne coûte pas excessivement cher et est-ce que ça n'est pas réservé à une classe très aisée?
Alors, il y a encore plusieurs aspects dans la question. La rénovation passive de grands ensembles coûte nettement moins cher que raser le grand ensemble pour en reconstruire un à côté, même nettement moins performant qu'un bâtiment passif. Et comme ces grands ensembles ont la compacité, l'orientation, finalement presque toutes les qualités qu'on attend d'un bâtiment rationnel, c'est complètement absurde de ne pas les rénover. Très, très, très simplement, sans en parler de l'analyse de cycle de vie, où on a des quantités de béton qui ont été mis en œuvre globalement il y a une quarantaine d'années, et qui, en termes d'énergie grise, contiennent énormément d'énergie et ont nécessité l'émission d'énormément de dioxyde de carbone à la construction. Et donc, si on pouvait utiliser ces structures qui n'ont vécu que 40 ans, faut pas oublier que, par exemple, dans les analyses de cycle de vie en Suisse, on considère qu'une structure béton a 100 ans de durée de vie. Et alors que là, on est en train de détruire massivement des structures qui ont demandé beaucoup d'énergie et qui ont émis beaucoup de CO2, avant même de les avoir amorties d'un point de vue énergétique. Donc, il y a au moins une triple raison à la rénovation massive et radicale, passive, des bâtiments. C'est qu'ils s'y prêtent relativement bien, que c'est moins cher qu'une démolition reconstruction. Je parle même pas du dérangement dans le quartier quand on doit dynamiter une barre ou même la démolir à l'appel mécanique. Et enfin, énergétiquement, c'est sans commune mesure avec le fait de devoir reconstruire à côté. c'est-à-dire de mobiliser de nouveau des matériaux, de nouveau aller creuser au fond des vallées pour chercher des agrégats ou de raser le haut des collines pour finalement enlever des débris qui vont aller combler des trous là où on a été creusé précédemment pour extraire des matériaux. Enfin, il y a une certaine absurdité dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est le premier générateur en masse de déchets en France. Il faut vraiment qu'on se pose la question, ne plus voir les bâtiments comme des produits jetables, mais voir les bâtiments comme des investissements patrimoniaux. Aujourd'hui, on nous demande de rénover, par exemple, l'école qu'on a vue tout à l'heure, qui est de 1850. On pourrait très bien dire 1850, oh là, qu'est-ce que c'est vieux, qu'est-ce que c'est pas efficace. Faut raser, hein, faut reconstruire à côté. On n'a pas ce raisonnement-là parce qu'on y voit du patrimonial. Ben, il faut aussi voir du patrimonial dans des bâtiments qui n'ont que 40 ans. Il est moins esthétique que énergétique et matériaux.
Mais on voit aussi beaucoup de bâtiments qui sont tout simplement abandonnés, pas rasés, et on construit à côté.
C'est des grandes questions. On a travaillé aussi sur des grosses rénovations de friches industrielles, textiles, surtout dans les Vosges, qu'on a transformées en énormément de choses, des salles de sport, un centre d'éco-construction, des salles de spectacle. Et alors là, on est complètement à contre-emploi. On est dans des grands halls industriels de la fin du 19e qui n'ont jamais été prévus pour être chauffés et qu'on transforme totalement. Donc là, on a fait deux grosses rénovations de friches. C'est quelque chose qui nous passionne parce qu'on donne totalement une deuxième vie à un grand bâtiment patrimonial. Donc c'est en fait la rénovation, un terme que j'ai retenu aussi, que j'aime beaucoup, qui est la remolition, c'est-à-dire quelque chose entre... ce n'est pas de la destruction, ce n'est pas de la construction, c'est quelque chose entre les deux. C'est vraiment une seconde vie au bâtiment, dans d'autres usages et dans d'autres manières de l'utiliser. C'est le plus passionnant, c'est le plus difficile, c'est pour les bons architectes, voilà.
Mais tout de même, je remarque que vous ne répondez pas vraiment à mes petites piques sur les bailleurs sociaux. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de leur faire de la peine ?
Non, parce que... voilà, on est un bureau d'études militant, on dit ce qu'on pense et on a eu la chance d'avoir la confiance du Toit Vosgien, donc logeur social local de la région de Saint-Dié, depuis une dizaine d'années, qui nous a permis d'expérimenter et de réaliser de très belles références d'éco-construction, comme on en a vu un certain nombre. La question des entités, finalement, de logement social, ça se résume assez vite à aussi une question de personne. Et là, on est sur un petit logeur local, historique, qui est implanté depuis la reconstruction sur le secteur de Saint-Dié et qui a à cœur de travailler avec les entreprises locales et de faire progresser tout le monde dans une dynamique de construction et de rénovation. Et je dirais à chaque fois qu'on s'adresse à des interlocuteurs de cette taille-là et de cette proximité, ben, tout est possible. Après, quand on monte sur des tailles beaucoup plus importantes, sur des grands groupes qui ont des centaines de milliers de logements, c'est beaucoup plus difficile de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Souvent, ils sont intéressés pour faire une opération médiatique, mais pas du tout à changer complètement les manières de faire. Ce qu'on propose, c'est beaucoup plus une manière différente de concevoir, de reconcevoir et d'appréhender le bâtiment et l'énergie qu'une somme de techniques ou de technologies qui serait la panacée.
Mais à votre avis, qu'est-ce qui les rend si frileux, Vincent Pierret ? Est-ce que c'est le coût ? Est-ce que c'est simplement une question d'habitude de penser ?
Alors, le bâtiment est conservateur par principe. Tout simplement parce que, peut-être contrairement à d'autres secteurs d'activité économique et de secteurs technologiques, il a une très grande antériorité. Hein. On dit une maison de maçon, même quand c'est des maisons qui sont plus ou moins préfabriquées. Il y a une espèce d'imagerie d'une très très grande continuité qui est totalement fausse, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a complètement changé les manières de construire, qui s'est énormément industrialisé. Mais il reste une espèce de mythe qui fait que le secteur du bâtiment n'a que le mot innovation à la bouche, surtout quand, si elle est technologique et qu'elle permet de faire comme d'habitude. En fait, ce qui fait très peur sur nos approches, c'est que elles sont basées sur des concepts différents, elles se veulent radicales, c'est-à-dire vraiment en prenant en compte l'ensemble des problèmes autour du bâtiment et pour y apporter une solution qui elle-même est complètement radicale. Il n'y a pas de compromis avec ce qui se faisait précédemment et c'est complètement déstabilisant.
J'aimerais que vous me donniez un exemple, parce que j'essaye d'imaginer ce que c'est que cette radicalité et ce que c'est que ces solutions que vous proposez qui ne sont pas technologiques, semble-t-il.
Si on prend sur l'exemple de Jules Ferry, c'est intéressant, c'est comme c'est un assez gros bâtiment, ça se voit très bien. Il faut s'imaginer que sur les bâtiments passifs, on n'a plus de radiateurs, on n'a plus de plancher chauffant, on n'a quasiment plus d'émetteurs de chaleur. Alors qu'on est dans un climat très froid, donc un climat montagnard, l'ensemble des besoins d'eau chaude et de chauffage, donc de l'ensemble des bâtiments Jules Ferry, 26 logements, est assuré par une petite pompe à chaleur qui fait 30 kW de puissance. Mais ce serait une chaudière murale gaz, ce serait pareil. Ça veut dire que aujourd'hui, on assure les besoins de 26 logements avec, on va dire, l'outil technique qui normalement sert à un seul logement. dans l'imaginaire d'un chauffagiste qui passe ses journées à remplacer des chaudières de 25 kW dans un pavillon par une autre chaudière de 25 kW parce qu'elle arrive au bout, s'imaginer que la même chaudière va assurer les besoins de 26 logements, c'est juste pas pensable. Même s'il y a une étude thermique qui le démontre. Il n'y croit pas. Jusqu'à ce que ça soit réalisé. Voilà. Et en fait, j'allais dire, en grandement, le bâtiment en est à ce niveau-là, en sachant que ça remet en cause aussi fondamentalement les métiers. On a des métiers qui prennent énormément de valeur ajoutée, les métiers de l'enveloppe, qui étaient plutôt des métiers pas forcément très bien vus, et les métiers des chauffagistes vont être en totale mutation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de place, il ne faudrait pas croire qu'il n'y a plus de besoin, mais ils vont être beaucoup plus des gens qui installent de la ventilation, qui font des systèmes très performants, qui atteignent réellement leurs objectifs, plutôt qu'installer la plus grosse chaudière, fût-elle renouvelable.
Mais tout de même, vous avez trouvé que moi aussi je suis bien conservatrice. Vincent Pierret, mais j'ai du mal à imaginer comment un système d'isolation, même bien pensé, même bien conçu, peut venir se greffer sur l'existant et ne pas créer de nouveaux problèmes, comme par exemple un surcroît d'humidité ou bon, les bâtiments trop étanches. Non, il y a 20 ans, 30 ans, c'était ça ce que ça faisait.
Oui, bah très simplement, les bâtiments trop étanches, il y a 20 ou 30 ans, n'avaient pas de ventilation. Donc, CQFD, en les ventilant, ça va beaucoup mieux. Sur les bâtiments existants, on vient greffer une peau extérieure qui l'isole. En isolant par l'extérieur, on supprime tous les ponts thermiques. Donc à ce moment-là, tous les problèmes de condensation, tous les problèmes qu'on connaissait disparaissent. Et ensuite, on installe une ventilation à double flux, donc qui récupère la chaleur, et qui assure un débit de ventilation hygiénique idéal. Donc en fait, on a des bâtiments qui sont sains et très peu énergivores et pérennes. On a fait disparaître finalement la plupart des pathologies qui sont des pathologies de mauvaise conception.
Mais vous disiez que ça, c'est surtout vrai des bâtiments des années 60-70. Donc qu'est-ce que vous faites avec les plus récents qui sont encore plus audacieux sur le plan du geste architectural?
Alors je dirais les plus récents, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été construits après les premières réglementations thermiques. Alors ils sont un petit peu isolés, mal isolés, ils vieillissent relativement mal. Mais pour l'instant, technico-économiquement, on n'est encore pas dans la question de les rénover. Parce qu'ils sont, finalement, ils sont pas vieux. Et d'un point de vue purement patrimonial, remettre la moitié du coût de construction d'un bâtiment 20 ans après, c'est pas spécialement prévu dans les plans de financement. Donc, on n'est pas encore confronté à cela. Simplement, on se dit, le jour où il faudra y aller, ça va vraiment être très difficile. Pour beaucoup, j'ai pas forcément beaucoup d'espoir, hein. Je pense que on devra faire sans. La question peut être aussi très pertinente sur les bâtiments beaucoup plus anciens. C'est-à-dire sur les bâtiments qu'on appelle habituellement patrimoniaux. On va dire des bâtiments, faire simple, construits avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'approche donne encore beaucoup plus de pertinence aux matériaux naturels, aux matériaux en fibre végétale. Parce que le bâti moderne, donc des années 50, 60, 70, c'est un bâti étanche à la vapeur d'eau, c'est le béton. Donc, il s'accommode pas trop mal de produits assez étanches à la vapeur d'eau, de polystyrène, de choses comme ça, sans que ça crée de grosses pathologies. Par contre, sur le bâti patrimonial beaucoup plus ancien, qui, on va dire, a une vie naturelle avec l'eau et la vapeur d'eau, il faut faire très attention aux problèmes de transfert d'humidité. Et c'est là où une approche éco-construction avec les fibres végétales est, à mon sens, nécessaire.
Alors justement, Vincent Pierret, là aussi, vous m'avez prise un peu par surprise, puisque j'étais venue vous voir pour que vous me parliez de la paille. Et voilà que vous me parlez de béton, que vous me parlez de polystyrène, que vous me parlez de matériaux qui ne sont pas exactement des éco-matériaux. Alors la paille, c'est juste quelque chose pour faire joli une fois de temps en temps?
Alors, en fait, on a fait une centaine d'opérations diverses sur les 10 années d'existence du bureau d'études, de toute taille. De mémoire, je crois qu'on doit avoir 2 opérations où il y a du polystyrène. Et c'est après moult débats avec le maître d'ouvrage, parce qu'évidemment, c'était pas notre proposition de base, mais ça a terminé avec ça pour des raisons budgétaires et partiellement idéologiques. Par contre, ça veut dire que les 98 autres sont en fibre végétale. Voilà. Et dans ces 98 autres, on en a une bonne trentaine qui sont en paille. Nous, on considère la paille comme l'isolant idéal pour réaliser un bâtiment passif dans un climat continental. Tout simplement, la botte de paille, elle existe en 360 mm. Il faut à peu près 300 mm d'isolant. Ben, la botte de paille est quelque chose d'idéal en construction neuve.
Donc là, vous parlez de construction, pas seulement d'isolation.
Isolation des constructions neuves. Le problème qu'on peut avoir après avec la botte de paille pour l'isolation des bâtiments existants, c'est la surépaisseur. C'est qu'on travaille assez souvent en construction neuve, en ossature bois ou en structure bois massif. Ce qui fait que on a des murs qui sont certes épais, mais on limite quand même les choses à une cinquantaine de centimètres, ce qui est déjà beaucoup. Le problème, c'est qu'on fait de la rénovation sur des bâtiments qui ont déjà des murs en pierre de 50 centimètres. Si on doit encore rajouter 40 centimètres, ça commence à prendre un petit peu un look château fort. Donc ça pose d'autres problèmes. Donc on est obligé d'utiliser des matériaux un petit peu plus souples en termes d'épaisseur, type laine de bois, cellulose, chanvre. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise un peu moins la botte de paille. Mais à chaque fois qu'on est en construction neuve et qu'on peut concevoir le système, la paille nécessite de concevoir dès la base avec la paille comme brique unitaire de construction. Parce que la botte de paille, elle a une forme de botte. Voilà. Alors on peut pas faire du quart de botte, du tiers de botte, raboter la botte. On peut, hein, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Donc on essaie de concevoir tout dans l'unité une botte de paille. Donc les ouvertures sont à X bottes de paille, les écartements sont à X bottes de paille dans l'autre sens. Ça paraît pas, mais il y a un module botte de paille. Donc Le Corbusier avait son moduleur, nous on a notre botte de paille. C'est une autre manière de concevoir. Mais Jules Ferry a été intégralement calpiné à la botte de paille.
Jules Ferry, donc on le rappelle, c'est 7 étages, plus le rez-de-chaussée.
Ouais, 8 niveaux, oui, 8 niveaux. Et qui est constitué de environ 700 caissons dans lesquels il y a 6 bottes de paille.
6 bottes de paille dans chaque caisson.
Oui, c'est ça. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et à mon sens, c'est une très bonne fable de la transition énergétique. Parce que quand on décide de construire un bâtiment de cette ampleur-là, on ne va pas dire qu'on va aller recruter toutes les entreprises qui ont de l'expérience dans la construction d'un bâtiment de 8 niveaux en paille. Parce que tout simplement, ça n'a jamais été fait. Et quand on veut faire du caisson préfabriqué paille, on peut pas sélectionner une entreprise qui a de l'expérience dans le caisson préfabriqué paille, ça n'existe pas. Et en fait, c'est ça la transition énergétique. C'est pas l'incantation de nouvelles technologies qui vont radicalement changer le monde parce qu'elles vont être vertueuses et ainsi de suite. C'est comment, avec tous les gens qui sont sur un territoire, avec toutes les compétences qu'ils ont, on va pouvoir faire autre chose, mais avec les mêmes compétences.
Inventer carrément.
Oui, mais finalement, l'innovation, c'est ça. L'innovation, c'est trois fois rien. Dans le cas de Jules Ferry, l'idée issue d'expérimentations qu'on a eues avant de nombreux bâtiments paille, c'est que de toute façon, la paille ne doit jamais apparaître sur le chantier. Parce que la paille sur chantier est trop difficile à mettre en œuvre et trop dangereuse, parce que ça met des petits morceaux de paille partout. On a des risques d'incendie, ça fait des chantiers glissants. On a beaucoup d'expérience là-dessus. Et d'un point de vue rationalité de construction, il fallait que la botte de paille soit conditionnée dans quelque chose avant d'arriver sur le chantier. Et donc l'idée a été la plus naturelle, c'était de les constituer dans une grosse boîte, donc 6 bottes de paille, qui fait une boîte d'1m20 par 2m50 de haut.
Ça, c'est les fameux caissons en bois.
C'est les fameux caissons. C'est des caissons qui contiennent les bottes de paille. Et alors après, tout de suite, l'idée s'est dit, comment on va fabriquer ces caissons? On a regardé, qu'est-ce qui dans la société autour de nous fabrique des grosses caisses comme ça? Tout simplement, c'est les fabricants de caisses palettes. Et donc, on a contacté une entreprise vosgienne de proximité qui fait de la caisse palette d'expédition, qui a jamais travaillé pour le bâtiment. Et on lui a envoyé un plan, puis on lui a demandé combien ça pourrait coûter. Ils ont été intéressés et on a organisé la livraison des bottes de paille dans cette entreprise. Ils recevaient un camion de paille, ils fabriquaient l'équivalent en caisse, ils remplissaient les caisses, ils fermaient les caisses, ils remettaient les caisses sur le camion et le camion nous livrait les caisses prêtes à monter. Et en fait, on a transformé en constructeur du 21e siècle de bâtiments passifs, un fabricant de caisses palettes locales, sans avoir eu besoin de lui expliquer qu'il faudrait qu'il fasse la transition énergétique, qu'il faudrait qu'il pense écolo, qu'il faudrait qu'il se réinvente, qu'il passe à des nouvelles technologies, parce que ça n'existe pas. La réalité, c'est on a à peu près tout les technologies disponibles, il faut juste les arranger et faire travailler ensemble les différentes entreprises pour obtenir ce résultat.
D'accord, vous leur avez rien dit, en gros ils ont fait l'écologie à leur insu. Mais vous avez pris un sacré risque quand même de monter un bâtiment de 8 niveaux en caisson rempli de paille.
Absolument pas, parce qu'en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est que quand on est sur de la basse technologie, parce que là, ce qu'on est en train de raconter, c'est conditionner des bottes de paille faites avec une botteleuse agricole dans le champ, dans une caisse palette chez un fabricant de caisse palette. Alors, on va pas faire rêver, hein, on n'aura pas un prix l'innovation.
Ah, détrompez-vous.
Ouais, effectivement, moi, ça me fait beaucoup rêver, mais disons, par rapport à l'esprit assez technocentriste de la société, ça fait pas rêver. Par contre, on n'est pas parti à commander 700 caisses palettes sans avoir expérimenté une caisse palette. Et donc, on a créé une caisse palette, on l'a remplie avec les bottes de paille, on s'est amusé à la manutentionner avec une petite grue pour voir ce que ça donnait, et on s'est rendu compte que ça marchait très bien. C'est ça, l'innovation. C'est tout simplement avoir une idée et se donner les moyens avec un artisan ou de faire un petit prototype, le valider de manière très pragmatique, et après l'utiliser comme un composant d'une construction.
Oui, mais la résistance du matériau au poids, par exemple, à la...
Alors, on travaille pas tout seul. Donc, je vous ai évoqué l'architecte tout à l'heure, donc Antoine Panou du cabinet ASP à Saint-Dié. Donc toujours au travail en interrelation locale. On a travaillé aussi avec un excellent bureau d'études Structure Bois qui nous a aidé à justifier le calcul de la structure de la boîte, qui finalement n'est pas un calcul forcément très complexe, mais c'est un mélange de pragmatisme, d'expérimentation et d'approche théorique qui, quand tout est mis ensemble, ça devient relativement logique et évident.
Oui, mais ça aurait pu être de la terre, du bois, des fustes, enfin ça aurait pu être toutes sortes de choses. Donc pourquoi spécifiquement la paille, surtout après nous avoir dit, Vincent Pierret, que vous ne vouliez surtout pas avoir de paille sur le chantier?
Oui, on ne veut pas l'avoir, mais on veut l'avoir. C'est la différence. Bon, ça aurait pas pu être de la terre, parce que la terre n'est pas isolante, hein. En tout cas vraiment pas suffisamment sous nos climats. Non, ça aurait pu très bien être de la cellulose. Et si ça avait été de la cellulose, le bâtiment aurait fonctionné de la même manière. Ça aurait été de la laine de bois, il aurait fonctionné de la même manière. Ça aurait été de la laine de verre, elle aurait fonctionné aussi de la même manière, ça aurait été nettement moins bien et certainement moins durable. Et si on avait attaqué dans des produits d'origine pétrolière, là, on aurait peut-être eu d'autres problèmes. Et on aurait eu aussi d'autres risques et des problèmes de pérennité et environnementalement parlant, on aurait été mauvais. Mais thermiquement, ça aurait marché de la même manière. Par contre, la paille est le produit d'isolation absolument idéal. Il est produit localement, on est sur des bottes de paille produites en Lorraine. Il est presque infiniment renouvelable, à partir du moment où les pratiques agricoles sont à peu près maîtrisées. Et il a un excellent coefficient d'isolation, il a une forte densité, il a un excellent comportement à l'humidité. Quand on commence à lister les propriétés de la paille, et si on utilisait des termes scientifiques et un petit peu compliqués pour dire qu'on vient d'inventer un nouveau matériau, qu'on en fasse toute la liste, et puis à la fin, on dise ça s'appelle la botte de paille, on parlerait d'un nouveau matériau biosourcé, éco-conçu, un espèce d'hybride végétal. Enfin bref, on décrirait la botte de paille. Finalement, il se trouve que la botteleuse agricole la fabrique. Et c'est tout. C'est juste, encore une fois, du pragmatisme. Ça fait très longtemps que des constructeurs ont remarqué que la botte de paille était une espèce de grosse brique assez facile à mettre en œuvre et avec des grandes propriétés isolantes pour des maisons individuelles. Ça s'est fait il y a une quarantaine d'années, un petit peu partout. Surtout en Amérique du Nord, puis ensuite en Europe. Et en fait, aujourd'hui, on fait réinterpréter de manière moderne l'utilisation de la botte de paille.
Mais on avait arrêté entre-temps. Alors, est-ce que ça serait parce que c'est trop fragile, parce que ça s'abîme, parce que c'est sensible aux insectes, parce que ça prend feu?
En fait, rien de tout ça. On n'a pas vraiment arrêté. Ce qui se passe, et je dirais, nous, notre seul mérite, c'est d'avoir essayé de normaliser la paille dans la construction. C'est-à-dire la sortir du champ de l'autoconstruction, de la sortir du champ de la maison individuelle, la sortir du champ tout court, pour l'amener justement dans les gros bâtiments publics. Parce que là, on a parlé de Jules Ferry, parce que c'est une opération qui est vraiment emblématique, 26 logements, mais on est aussi en train de construire actuellement un collège de 400 élèves au cœur de Nancy, en paille aussi, système caissonné, très très proche. On a construit plusieurs écoles en Alsace, aussi en paille. Pour nous, c'est un produit normal, idéal, qui résout énormément de problèmes, qui, mis à l'abri de l'humidité, des rongeurs comme n'importe quel produit d'isolation. N'importe quel produit d'isolation doit être protégé des rongeurs, non pas qu'ils le mangent, mais ils nichent dedans. Donc la laine de verre ou même le polystyrène sont des produits dont les rongeurs aiment y habiter. La paille, pas plus, pas moins, quoi. Même peut-être un peu moins, parce que la paille est très dense et très abrasive. Et voilà, donc toujours avec ces précautions minimales, qui finalement sont les mêmes précautions pour n'importe quel isolant, la botte de paille se met en œuvre de manière aisée.
Je me pose une question quand même, Vincent Pierret. Est-ce que vous avez parlé de la nécessité, de la nécessaire compacité des bâtiments et du coup vous avez loué les constructions des années 60-70. Vous avez expliqué que la botte de paille, on peut pas la diviser à l'infini et que donc on est obligé de la prendre comme unité de mesure et que c'est pas nécessairement d'une grande souplesse. Est-ce que toutes ces éco-constructions ou éco-rénovations dont vous nous parlez nous condamnent à des formes assez cubiques et tristes?
Alors, il y a un certain nombre, je ne sais pas si je vais dire d'images d'Épinal parce qu'on est à proximité, mais qui collent à la construction efficace au bâtiment passif. Et en fait, c'est beaucoup d'images qui sont apparues en réaction justement à ce qui est proposé pour un peu affaiblir le message et le discréditer, en disant qu'on peut pas être efficace et architectural, on peut pas être efficace et beau, on peut pas être efficace et habitable. Ça, c'est relativement le reflet de la manière de voir d'une partie de la société. Alors qu'on est sur des approches qui sont radicalement différentes et qui intègrent toutes les contraintes. Simplement, l'aspect architectural n'est pas traité en dehors de l'aspect technique, qui n'est pas traité en dehors de l'aspect fonctionnel. C'est chacune des contraintes qui enrichissent les autres, qui enrichissent la conception, qui permettent d'avancer dans la conception. Et bien que la botte de paille est difficile à rediviser, on a plein d'astuces à des endroits pour finalement pas mettre une botte de paille, on va mettre un autre isolant. Mais on sait que si on l'applique sur une façade qui n'a pas été pensée avec la botte de paille, ça va être très difficile et donc coûteux de le réaliser. Mais il n'y a rien qui l'emporte sur l'autre. Un bâtiment passif, c'est une manière de concevoir. On doit atteindre un certain niveau de performance pour que ça fonctionne. Après, plus les bâtiments sont gros, plus les contraintes de compacité sont légères. Parce que finalement, un bâtiment assez important est déjà naturellement compact. Je dirais, l'architecture en boîte à chaussures, c'est quand on s'acharne à essayer de faire de la maison individuelle passive. La maison individuelle passive, elle a tout faux. Alors, je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire avec des amis, mais elle a tout faux dans le sens où la maison individuelle a beaucoup de surface d'enveloppe, de murs, de toits, de sols, pour finalement peu de mètres carrés utiles, parce qu'elle mutualise pas avec des voisins sur les côtés, au-dessus, en dessous, et ainsi de suite. Donc, elle est condamnée à être surisolée par rapport à un bâtiment collectif, et faire appel à tous les composants les plus performants du marché, donc les plus chers. Et donc, on a une double spirale négative. On a beaucoup de mètres carrés à traiter, et en plus, il va falloir les traiter de manière très très chère. Donc, on ne pourra sortir en maison individuelle très performante qu'à des prix très élevés. Alors que cette double spirale négative devient une double spirale positive sur des bâtiments. Alors, quand je dis important, c'est des 600 mètres carrés à peu près. Hein. Donc, c'est pas non plus des monstres. Hein. Faut entendre de quoi on parle. C'est pas de la maison individuelle. Dès qu'on passe à l'échelle de la maison en bande, on n'a presque plus de contraintes architecturales pour faire des bâtiments très performants. Parce que tout simplement, on a naturellement une compacité. Et quand on arrive dans les très grands bâtiments, actuellement on travaille sur des projets de bâtiments R+7, R+8 de 60 logements, on a même presque plus de contraintes d'orientation. C'est-à-dire que le bâtiment travaille tellement sur la récupération de sa chaleur interne, c'est-à-dire des gens qui sont dedans, des usages qui sont dedans, de ce qu'ils font dedans, parce qu'il est tellement compact, que finalement l'orientation plein sud est moins importante. Alors évidemment, quand c'est plein sud, c'est mieux, mais c'est moins fondamental. Et on arrive à faire des choses où finalement l'architecture est très très libre. Mon travail d'ingénieur, là, c'est de donner en fait tous les degrés de liberté à l'architecte en lui disant quelle est l'orientation optimum et en lui disant de combien, en gros, il peut dévier. Et si lui me demande de dévier plus, où est-ce qu'il faut faire différemment pour maintenir l'objectif ? Et ça, c'est passionnant. C'est le vrai travail de co-conception. Et où ça me demande, moi, en tant qu'ingénieur, d'avoir une certaine culture architecturale, et ça demande à l'architecte d'avoir une certaine culture technique et thermique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça la révolution de conception. C'est pas l'architecte fait son dessin, le bureau d'études fait son calcul, et le chauffagiste pose sa chaudière. C'est tous les trois ensemble, on réfléchit un grand coup.
Est-ce que tout de même, vous iriez jusqu'à militer pour des tours, Vincent Pierret ?
Alors, non, parce que, en fait, tout est question de proportion. La tour, déjà, n'est pas compacte, clairement. Une tour, c'est un bâtiment qui est significativement plus haut que large et profond. La profondeur, faut pas exagérer, parce qu'après, on a des problèmes d'éclairage naturel. Au-delà de 10-11 mètres de profondeur, un bâtiment n'est plus agréable à des problèmes de ventilation naturelle l'été. Il faut pas aller au-delà de 11 mètres, qui est finalement la trame optimum des années 60, qui est aussi une trame qu'on retrouve dans l'habitat haussmannien ou des choses comme ça. Donc finalement, c'est une trame validée par l'évolution du bâtiment. Et dès qu'on va commencer à avoir de la grande hauteur, on va créer énormément de problèmes. Voilà, des problèmes qui finalement sont les mêmes problèmes qui ont amené les... je ferai l'analogie, à créer des organismes multicellulaires. C'est qu'une cellule ne peut pas grossir à l'infini, parce qu'après, elle n'arrive plus à échanger avec son environnement. Et elle s'asphyxie elle-même. Et on a le même problème avec le système des tours. Vaut mieux, finalement, la forme de la barre, même si elle peut créer urbanistiquement des problèmes de créer un obstacle, hein, tout simplement, est beaucoup plus rationnelle en termes de construction. Il faut imaginer que le premier niveau d'une tour porte tous les niveaux supérieurs. Donc ça demande un surcroît de matériaux pour porter la masse qui est posée au-dessus. Alors qu'un bâtiment qui va être limité à 5, 6, 7 niveaux, mais qui va s'étaler un petit peu plus sur la longueur, va être beaucoup plus sobre en matériaux, va nécessiter beaucoup moins de matériaux et sera beaucoup plus facile à réguler. Donc les tours, une tour ne peut pas être écologique, parce qu'une tour va nécessiter beaucoup de matériaux. Une barre peut l'être, et en même temps, on va vite calmer l'inflation de la barre, parce que les optimums de compacité, on les obtient presque à partir de 15 logements. Tout à l'heure, on va aller voir une opération de rénovation de bâtiments des années 70. Une forme de bâtiment qu'on retrouve absolument partout. Des petits collectifs de trois niveaux, donc de rez-de-chaussée R+1, R+2, d'une quinzaine de logements, Donc ils sont pas très longs, hein, ils ont 4 à 5 logements en tram. On en retrouve mais vraiment dans toutes les petites villes. C'est une des formes les plus simples à construire et on est déjà quasiment à l'optimum. Je veux dire, rajouter un ou deux étages ou étendre, finalement, ne fait pas gagner beaucoup. Simplement, le modèle problématique, c'est la maison individuelle, qui, elle, cumule, ben, comme je l'avais indiqué, tous les soucis de compacité. Et entre les très grands ensembles et ce modèle-là d'une quinzaine de logements, on n'a pas un gros gain. L'optimum est sur des petits collectifs à taille humaine d'une quinzaine, vingtaine de logements, qui finalement sont ce qu'on retrouve le plus souvent dans les petites villes et les villes moyennes.
Mais quand vous dites ça, Vincent Pierret, vous pensez aux gains en termes énergétiques, plus particulièrement. Et j'étais en train de me demander, en vous écoutant, si cette même rationalité sur laquelle vous insistez beaucoup, si elle est appliquée par des promoteurs immobiliers qui, eux, sont à la recherche de gains autres, des gains financiers, par exemple, est-ce qu'ils vont pas, justement, en conclure que, oui, la barre, c'est vraiment l'idéal, ou oui, la tour, c'est vraiment l'idéal? Parce que vous revenez systématiquement au problème de la maison individuelle, que j'entends bien, effectivement. Mais comment ne pas se retrouver piégé dans finalement un choix qui semble possible sur le plan rationnel et qui en même temps a des avantages financiers. Et on sait que la finance aujourd'hui c'est quand même un des moteurs essentiels.
Eh ben c'est un très grand paradoxe, c'est que si la promotion s'emparait des concepts de construction passive, il gagnerait de l'argent. Très simplement parce que le coût de construction à matériaux équivalent d'un bâtiment passif est équivalent ou légèrement inférieur, à partir d'une certaine taille, au mode de construction habituel. Tout simplement parce que on met plus d'isolant, plus de performance dans l'enveloppe, mais on installe presque pas de système énergétique. Et le problème, c'est que les logiques de promotion ne sont pas du tout celles-là. Finalement, il n'y a pas un énorme intérêt dans la promotion pour le produit bâtiment lui-même. L'intérêt est ailleurs, et plus sur la marge qui va pouvoir être faite dans l'opération. La promotion pourrait très bien faire de la promotion de bâtiments passifs, de bâtiments biosourcés, de bâtiments écologiques. C'est finalement la promotion, faut pas oublier que c'est qu'un outil. Hein. C'est un outil pour réaliser quelque chose. Il peut faire le pire comme le meilleur, sauf qu'aujourd'hui, ils sont pas convaincus en dehors d'opérations pour bobo que ça intéresse quelqu'un de faire des bâtiments performants et écologiques. Mais le jour où ils s'y mettront, ils le feront ni mieux ni pire. Tout simplement, la question n'est pas là. Quoi.
Donc la question, du coup, elle est comment les convaincre? Est-ce qu'il faut une réglementation d'État? Est-ce qu'il faut des contraintes? Est-ce qu'il faut un mouvement populaire en faveur de ces nouveaux bâtiments?
Ce qui est certain, c'est que le conservatisme du bâtiment fait que, en dehors des réglementations thermiques, il n'y a pas de révolution. Il y a toujours à la marge, on est loin s'en faut les seuls à faire des bâtiments passifs, mais c'est complètement marginal. Ce qui serait très important pour moi, c'est que la prochaine réglementation thermique soit sur le bâtiment passif. Et le bâtiment passif tel que défini par le Passive House allemand, qui devrait émerger comme modèle européen à horizon 2020. Donc finalement, on ferait que se conformer à ce qui devrait être la réglementation européenne. Et à ce moment-là, sur le neuf, et avec une très très forte réglementation sur l'ancien, sur la rénovation, relativement contraignante, qui oblige justement à rénover de manière très ambitieuse, alors qu'aujourd'hui, faut se rendre compte que sur l'ancien, factuellement, il n'y a rien. Il y a bien une réglementation thermique de l'ancien, mais qui est tellement peu ambitieuse qu'elle n'a pas de sens. Et c'est là qu'est réellement l'enjeu. Et si on avait ces deux aspects-là, je pense que tout le domaine du bâtiment se réorganiserait autour de ça. Finalement, les compétences, en grande partie, sont là. Simplement, c'est l'organisation qui est très différente.
Et les capitaux ?
C'est pas construire significativement plus cher, c'est vraiment construire différemment. Et en plus, il faudrait que cette réglementation couvre les matériaux, c'est-à-dire l'énergie grise et l'origine des matériaux. Et pour ouvrir largement la voie aux matériaux fibres végétales, biosourcées, de la manière la plus intelligente possible. Pour qu'il n'y ait pas non plus de conflit d'usage entre l'alimentaire et la forêt. Et voilà. Faut que les choses soient faites intelligemment. Il ne faut pas imaginer qu'on peut substituer les volumes incroyables de matériaux qu'on utilise actuellement dans la construction par du tout végétal sans que ça ait des effets par ailleurs. Donc ça doit être organisé. Maintenant, je pense que sans réglementation, il continuera à se faire des choses, mais ça restera marginal.
Tout de même, Vincent Pierret, comment sortir d'une certaine confidentialité? Parce que c'est vrai que ces bâtiments sociaux, à moins d'être en votre compagnie et que vous nous expliquiez comment ils sont faits, ça ne se voit pas, on ne sait pas ce qu'ils ont de tout à fait extraordinaire. Donc comment faire pour attirer l'attention d'un plus grand nombre?
Alors effectivement, alors le logement social, c'est, enfin pour nous éthiquement très important parce que ça s'adresse quand même à une partie de la population qui doit absolument être libérée des charges énergétiques. Donc là-dessus, on est complètement en ligne. Faire des logements qui se contentent d'une centaine d'euros par an de charges énergétiques pour l'eau chaude, le chauffage, la ventilation, c'est à peu près ce qu'on arrive à réaliser sur ces logements-là. Maintenant, effectivement, les bâtiments bien conçus et bien rénovés, quand ils sont finis, c'est juste des beaux bâtiments fonctionnels qui vieillissent bien. Mais c'est presque impossible de déceler ce qu'il y a dedans, déjà, les isolants et leur mode de conception, à moins d'être du domaine. Et puis à l'œil, enfin, c'est un peu quand on va se balader dans le Vorarlberg ou dans d'autres régions en Allemagne, on voit des choses, on comprend bien ce qui se passe derrière, mais il faut déjà être du domaine. Ou alors on en reste à des belles images architecturales, ce qui est vrai aussi, hein, mais il y a aussi autre chose derrière. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. C'est difficile de la partager finalement dans le logement social, parce que le logement social construit encore beaucoup, et finalement peu. C'est peu de cas, c'est presque des exceptions, et qui même à un certain point peuvent être contre-productifs, parce que un logeur social comme le Toit Vosgien, des fois on lui reproche de faire des choses qui sont pas reproductibles. Enfin, sauf que lui, il les reproduit. Mais pour les autres disent que c'est pas reproductible. Donc je pense.
Sans avoir essayé.
Évidemment, sans avoir essayé. Je pense que ça passera par une expérimentation. Donc là aussi, ça peut être de la réglementation au niveau du logement social. Je dirais le devoir d'expérimentation, qui devrait être le devoir. Parce que finalement, le logement social, quelque part, c'est une émanation de l'État, c'est une émanation du bien public. Donc s'il y en a qui doivent vraiment porter l'expérimentation, c'est bien le logement social. Donc si chaque gros logeur devait expérimenter, mais en vrai, hein, pas juste pour communiquer, sur du bâtiment passif, je pense qu'on progresserait fortement. Tout simplement, il se rendrait compte que c'est relativement facile et peut-être même plus facile à maîtriser du point de vue du maître d'ouvrage comme bâtiment que des bâtiments très technologiques qui arrivent jamais à être vraiment maîtrisés parce que c'est trop complexe. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, même tout ça, ça sortira pas beaucoup du domaine du logement social, même si ce serait déjà une grosse révolution, hein, parce qu'on a quand même à peu près la moitié de la population française qui peut prétendre au logement social. Donc c'est quand même très important. Et l'ensemble du parc à rénover est encore colossal. Donc ça, c'est un aspect important. Après, on a la chance aussi, alors peu dans les Vosges et beaucoup en Alsace, d'avoir mené pas mal d'autres projets qui sont essentiellement des écoles. On a construit beaucoup d'écoles primaires en Alsace, des écoles passives. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé en 2008, je crois, à Burnhaupt-le-Haut, c'est dans le sud de l'Alsace. Première école passive, 1400 mètres carrés, quelque chose comme ça, chauffée par une petite chaudière à granulés de 15 kW. Donc c'était encore des sueurs froides du chauffagiste en se disant « c'est pas possible, ça marchera jamais ». Et en fait, ça marche parfaitement bien. Ce qui est intéressant, c'est que ces écoles existent. Et en Alsace, où c'est très important d'avoir la preuve des choses et la qualité et la durabilité plutôt que la communication... Ben, il se trouve qu'on a été retenu à faire de nombreuses autres écoles. Et on est en train de faire, je le disais en plaisantant, on est en train de faire la route des vins en école primaire. Et c'est très chouette parce qu'à chaque fois, en fait, c'est plutôt les clients qu'on aime, c'est les petites communes. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a le conseil municipal. On n'a pas un chargé de mission, on n'a pas un employé urbanisme ou un maître d'ouvrage délégué qui est un gestionnaire. On a des gens qui ont été élus et qui investissent pour le bien commun. Et finalement, l'école, ça catalyse toutes les ambitions sur l'avenir, parce que l'école, c'est pour les enfants. Et c'est normal que pour les enfants, on ait des matériaux sains, c'est normal que pour les enfants, ils aient pas froid, et ainsi de suite. Et finalement, c'est là où la réponse du bâtiment passif biosourcé est une évidence. Donc là, on a fini récemment une école à Bernwiller, qui est une école en paille. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ressorti les plus vieilles techniques de construction paille, c'est-à-dire les techniques de remplissage en ossature, avec des enduits terre à l'intérieur et des enduits chauds à l'extérieur. Donc vraiment les techniques qu'on avait presque volontairement mis de côté au début de nos projets paille pour des raisons de facilité de chantier, d'industrialisation et ainsi de suite. Bon là c'est une toute petite école, hein, y a 3 salles de classe. Mais là on a refait une opération intégralement naturelle. En fait il y a que du naturel.
Pourquoi ? Par nostalgie ?
Oh non, pas du tout. Tout simplement parce que c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est aller dans un secteur pour résoudre un certain nombre de problèmes en changeant les méthodes. Et à un autre moment, parce que le projet s'y prête, parce que le maître d'ouvrage s'y prête, parce que c'est le moment où la région Alsace avait lancé un vrai appel à manifestation sur du biosourcé, mais radical. Pas juste j'ai mis de la laine de verre qui contient un peu de laine de bois, mais vraiment des matériaux crus, bruts. Eh ben, on s'est lancé dedans, et avec l'architecte qui a là-dessus énormément travaillé, et des artisans aussi. On a obtenu une étanchéité à l'air, donc, excusez-moi pour la terminologie, mais d'un N50 voilà. De 0,3, c'est-à-dire deux fois plus étanche qu'un bâtiment passif selon le standard allemand, c'est-à-dire c'est à peu près six fois plus étanche qu'un bâtiment RT 2012, juste en faisant des enduits à la terre. Ça, c'était quelque chose, jusque-là, on n'était pas du tout convaincu du résultat. On pensait même qu'on aurait beaucoup de difficultés à y arriver. Pour avoir fait des maisons de particuliers, où la mise en œuvre des enduitaires et autres, posait des problèmes de retrait, posait des problèmes de dilatation différentielle entre le bois et la terre, qui n'étaient pas catastrophiques, mais qui ne permettaient pas d'atteindre, de maîtriser les choses. Le gros problème aujourd'hui, si on veut crédibiliser en utilisant des matériaux totalement bruts, c'est la maîtrise technique. Et ça, la maîtrise technique repose sur les artisans. Et ça, les artisans, ça a été quand même les grands oubliés de la transition industrielle du bâtiment, où on a substitué un produit technique fabriqué dans une usine au geste de l'artisan. Et là, sur Bernveler, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le geste de l'artisan qui a créé l'étanchéité à l'air. Alors, des détails de conception de l'équipe de maîtrise d'œuvre, bien sûr, mais la réalisation. À la fin, on tenait que sur son geste. Et on est excellent. Donc, on peut revenir aussi avec confiance sur des techniques anciennes, maîtriser et obtenir des bâtiments qui... De toute façon, un bâtiment passif est un bâtiment passif. Après, c'est ce qui compte, c'est quel matériau on l'a fait, quelle est la manière et comment on va vivre dedans. Donc voilà, c'est aujourd'hui Bernveler pour ça est vraiment vraiment chouette. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres écoles encore, toujours sur la route des vins, parce qu'en fait derrière, quand ça fonctionne bien, c'est ça donne une grosse visibilité et ça va permettre de passer aussi d'autres messages. Voilà, un petit peu la question que vous posiez, qui pourrait être qu'est-ce qu'on poursuit. On poursuit pas des techniques, on poursuit pas des approches énergétiques. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est la transition. C'est la transition de la société sur quelque chose de plus désirable, de plus apaisé, de plus en accord avec la nature, de plus calme socialement, moins compétitif. Et on peut le retrouver par la proximité. Et le bâtiment est un moyen. C'est pas une fin en soi. Finalement, à chaque fois qu'on est rentré dans un domaine du bâtiment, on a vu des difficultés. Mais il y a rien qui était insurmontable. On a toujours trouvé une technique, on a toujours trouvé une personne qui était capable de faire. Ça, il y a jamais fallu réinventer la roue. C'est juste des agencements, des questions d'agencement, des questions de méthode, des questions d'implication. Et finalement, quand le projet est bon et que tout le monde est impliqué, les bâtiments ils sortent de terre sans difficulté.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et toutes les indications concernant les musiques de cette émission. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Claude Nior, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.